Victor Lanuzel et Maëlle Le Gueffec de nous rejoindre pour nous parler un peu du travail qu'ils ont porté sur le bilan carbone de leur structure. L'occasion pour eux aussi de mobiliser un peu toute l'équipe sur ces questions-là et puis de développer aussi un plan d'action.
Alors, on va donc intervenir principalement sur le bilan carbone de la Carène. L'idée était de vous présenter en gros les résultats. Alors, c'est pour ça qu'on a choisi cette slide qui est une slide illustrée qui montre bien où sont les enjeux carbone d'une salle de spectacle telle que la nôtre. On retrouve, Cyril, quand même globalement ce dont tu parlais dans ta présentation. Alors, le bilan carbone, nous, on avait envie de vous le présenter sous deux axes. C'est pour ça qu'on est deux. Donc, Gaëtan, qui est l'administrateur de la Carène, qui travaille avec moi. Moi, je vais plutôt vous présenter l'axe enjeu, action politique. Et puis après, Gaëtan vous présentera plus la partie comment on implique les équipes, qu'est-ce que c'est concrètement qu'un bilan carbone pour les équipes et qu'est-ce que ça nous a amené comme problématique interne, externe, charge de travail. Je pense que ça peut être intéressant pour vous. Pour démarrer, je vais juste recontextualiser un tout petit peu cet outil qui est le bilan carbone et vous expliquer comment on en est arrivé à faire un bilan carbone, parce que ce n'est pas une mince affaire, donc c'est quand même un choix. Alors, la Carène a donc démarré, comme je vous disais tout à l'heure, une démarche en responsabilité sociétale en 2020. Donc je vais aller très vite parce que c'était très long et ça, on pourrait en parler pendant deux heures. Cette démarche en responsabilité sociétale, elle a été co-construite avec ce qu'on appelle nos parties prenantes. Donc, en premier lieu, notre conseil d'administration, nos élus, le conseil culturel, nos publics, nos partenaires, notre équipe. Elle a donné lieu à une déclaration de mission et de valeur et une approbation et un vote de notre politique en responsabilité sociétale par notre conseil d'administration. Donc politiquement, on a un conseil d'administration qui est très engagé sur cette question. Pour rappel, notre conseil d'administration est composé de 6 élus de la ville et de la métropole et de 4 personnalités qualifiées du secteur culturel. Voilà. Ensuite, dans le cadre de cette démarche, on a mené un certain nombre de chantier. On a en gros 4 principaux axes sur lesquels on a travaillé. Le premier étant le positionnement économique et l'ancrage territorial de la Carène, donc une salle de spectacle, comment elle se positionne vis-à-vis de la scène amateur, de la scène locale, mais aussi de la scène nationale, de la scène internationale, des grandes tournées qu'on peut accueillir, mais aussi toute la scène amateur, donc amateur des gens qui répètent dans nos studios, par exemple. Le deuxième axe, c'était tout ce qui concerne les droits culturels, l'action culturelle, l'inclusivité. Le troisième axe, c'était évidemment la transition écologique. Et le quatrième axe, et c'est pour ça que je vous en parle, concernait la santé au travail et surtout le bien-être au travail de nos équipes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas entamer une démarche en responsabilité sociétale sans se poser de la question de comment les équipes vont pouvoir se sentir bien et vraiment s'impliquer dans le projet de la meilleure manière sans que ça leur coûte trop. Alors, on a donc, à l'issue de tous ces questionnements et de ce travail, ces questions qu'on s'est posées en début de travail sur notre démarche, décidé donc de s'engager dans un bilan carbone, parce qu'en fait, on a considéré que c'était un outil incontournable d'une démarche en responsabilité d'un équipement culturel. Alors, on n'est pas des spécialistes du bilan carbone, ça c'est autant le dire tout de suite, on n'est pas des techniciens. On avait envisagé au démarrage de le faire tout seul. On y croyait à fond, on se disait ouais non mais ça va le faire. Bon, autant vous dire que faire un bilan carbone tout seul, c'est pas trop la peine d'essayer. Et puis ou alors à rester sur un niveau d'analyse vraiment très superficiel qui vous apportera pas grand-chose. Voilà, donc dans cette perspective, on avait même formé 2 personnes de notre équipe, donc Gaëtan et puis Michel Lehir, que vous avez vu tout à l'heure, qui est notre directeur technique, en leur confiant la mission de se débrouiller tous les deux pour nous faire un beau bilan carbone. Voilà. Bon, au bout d'un certain temps, ils sont venus se plaindre en nous disant « Bon, on va peut-être arrêter un peu de... Voilà. » Donc, on a fait appel à un prestataire qui s'appelle Costraten, qui est une entreprise qui est basée à Lorient et qui est dirigée par une personne qui est très proche de la salle de Lorient qui s'appelle Hydrophone. Donc, c'est pour ça qu'on a, parmi les différentes propositions qu'on a sollicitées, on a choisi celle-là parce qu'on s'est dit qu'ils avaient quand même une bonne connaissance du secteur et que c'était important pour nous. Donc, à l'issue de ce travail en commun, donc, voilà, en gros, hein, on a un dossier de 20 pages, hein, un rapport de 20 pages sur notre bilan carbone. Mais voilà, en gros, pour vous synthétiser les résultats de ce premier bilan carbone. C'était notre premier, donc, qui était basé sur les chiffres de 2019, notre année de référence avant la crise, une année normale. On est en ce moment en train de commencer à collecter les données de 2023. Gaëtan vous expliquera pourquoi on a décidé de faire ça comme ça. Mais en tout cas, voilà, c'est des premiers résultats d'une première étude avec beaucoup de cafouillage au début, de questionnements, de comment on collecte les données, qu'est-ce qu'on va interroger. Donc il est possible que ce bilan-là, à l'issue de l'analyse des chiffres de 2023, il évolue parce qu'on n'aura peut-être pas collecté les données de la même manière ni analysé de la même manière. Alors, si on regarde effectivement les chiffres, on voit bien que globalement, comme le disait Cyril, c'est effectivement les déplacements qui génèrent le plus d'équivalent CO2. Ensuite, on a tout ce qui est achat immobilisation. Donc là-dedans, on va retrouver les achats de matériel, l'alimentation et les boissons pour les artistes, pour le bar de la Carène. Ensuite vient l'énergie, la location de biens. Les spectacles en eux-mêmes et puis tous les déplacements hors public. Donc les déplacements de notre personnel, quand on part en mission et puis les différents déplacements qu'on peut faire dans le cadre professionnel. Donc que vous dire pour préciser les choses, la Carène c'est 50 000 spectateurs par an environ. Sans compter les studios, les usagers, les usagères des studios. Voilà. Donc on a, une fois qu'on a posé ce schéma, on se dit bon, grâce à ça, on voit bien où sont les urgences, où sont les plus gros enjeux. Mais pour autant, comme tu le disais, Cyril, il y a des enjeux sur lesquels on a beaucoup de marge de manœuvre et puis des enjeux sur lesquels on n'en a quasiment pas. Et malheureusement, ceux sur lesquels on n'en a quasiment pas, il se trouve, c'est ceux qui génèrent le plus de tonnes équivalent CO2. C'est-à-dire que une salle comme la Carène va avoir les plus grandes difficultés à maîtriser finalement la manière dont les spectateurs viennent voir les concerts. Même si on a la chance d'être en centre urbain, c'est-à-dire qu'on n'est pas ni en périphérie urbaine ni en zone rurale, on est quand même presque en plein cœur de la ville, donc on est quand même servi par des lignes de bus, pas de tramway, mais globalement on peut venir assez facilement sur le port à pied. Malgré tout, la plupart de nos spectateurs viennent quand même globalement en voiture parce qu'eux n'habitent pas au centre-ville. Et aussi parce qu'une partie de notre programmation, notamment les concerts en grande salle, attirent un certain nombre de personnes qui viennent de plus loin que la ville de Brest ou même la métropole brestoise. Pour autant, effectivement, on s'est dit que c'est pas parce qu'on avait affaire à des enjeux sur lesquels on avait peu de marge de manœuvre et qui étaient compliqués pour lesquels il était compliqué de trouver des solutions qu'on allait s'arrêter là. Donc effectivement, à l'analyse de ce bilan carbone, on a défini un plan d'action à court terme, à moyen terme et à long terme. Et on s'est dit, il y a des choses sur lesquelles on a la main et c'est là-dessus qu'on va commencer à travailler. Et les choses sur lesquelles on n'a pas complètement la main, il faut qu'on se dise qu'on aura des échéances plus longues, qu'il va falloir qu'on travaille aussi en partenariat avec la collectivité, avec différents autres acteurs. Voilà, donc pour par exemple sur la partie artiste, il faut savoir que le secteur des musiques actuelles est en train de se mobiliser actuellement, Mais le transport des artistes ne dépend pas des salles de musique actuelle, ni même des festivals. C'est que c'est les tourneurs, les bookers, les organisateurs de tournées qui sont en général à l'initiative des transports des artistes. Donc on est en train de se mobiliser tous ensemble pour essayer d'organiser des tournées vertueuses, aussi des spectacles plus vertueux en déployant moins de moyens techniques. Mais tout ça, ça va prendre un certain temps, parce qu'il y a aussi des enjeux économiques pour ces sociétés-là qui sont très très importants, et puis aussi des exigences de la part des artistes. Voilà, donc c'est pas forcément simple. Et en tout cas, on y travaille, et surtout on y travaille collectivement. Ensuite, pour la question des achats et des immobilisations, donc là, je peux vous prendre l'exemple de l'alimentation et de la boisson. Ici à la Carène, on travaille sur deux pôles sur ces questions-là. Donc, il y a principalement notre bar qui est ouvert pendant les concerts. Alors, le bar, les fournitures du bar, on est en comptabilité publique, donc on est en marché public pour l'achat de nos fournitures de bar. Et donc, dans notre cahier des charges, on a demandé expressément à ce que les produits proposés dans le cadre de ces marchés soient au maximum des produits locaux. Donc on travaille avec des brasseurs bretons principalement, idem sur les autres produits. Donc on essaye vraiment de favoriser le circuit court dans nos choix de fourniture, et on fait la même chose avec nos prestataires catering. Alors le catering, on appelle ça le catering, c'est les repas des artistes tout simplement. Pendant les soirées. On travaille avec 3 prestataires qui eux-mêmes ont signé une charte d'engagement qu'on a rédigé. Dans cette charte d'engagement, il y a différents principes, mais notamment de favoriser l'agriculture biologique, le circuit court, donc de se fournir principalement chez des producteurs ou chez des maraîchers de la région brestoise, du Finistère ou de la région Bretagne. On travaille également à essayer de réduire effectivement les repas carnés. Alors, c'est pas forcément si simple que ça, parce que c'est un sujet qui est extrêmement clivant dans les équipes. Tout le monde n'est pas végétarien, ni vegan, et tout le monde ne veut pas devenir végétarien et ne veut pas qu'on lui impose un régime alimentaire. Il y a certains métiers qui sont des métiers très physiques et qui sont pour certaines personnes qui font ces métiers, pour qui c'est plus compliqué que de manger du végétarien. Voilà, c'est... Donc nous, on est parti du principe qu'on allait sur cette question-là être en évolution lente, c'est-à-dire qu'on a bien compris que l'enjeu, il était au niveau du carbone, il se situait là aussi. Pour autant, on a décidé de ne pas imposer de manière brutale le régime végétarien pour tous, même si globalement les artistes consomment de plus en plus de menus végétariens, une grande partie de l'équipe aussi. Voilà, donc on est dans un work in progress, on va dire, avec les équipes aussi de sensibilisation et puis de les habituer à l'idée tranquillement, mais sans imposer un modèle brutal. C'est un choix. Il y a des salles qui ont fait des choix différents et qui ont imposé le même régime pour tout le monde, pour des questions de coût et puis pour des questions de carbone. Voilà, bon, ça passe ou ça casse, c'est un choix. Voilà, donc je pourrais parler très longuement des autres actions qu'on a mises en place. On travaille actuellement avec la métropole brestoise sur différents travaux donc sur le bâtiment qui concernent l'isolation, qui concerne les économies d'énergie, faire en sorte que notre bâtiment soit le plus sobre possible au niveau énergétique. On travaille sur les problèmes d'étanchéité, sur les problèmes d'isolation. Il y a aussi tout un travail sur le relamping en LED de tout notre système de lumière. On a aussi installé récemment un système de coupure électrique au niveau des alimentations, de lumière, des espaces de travail, des espaces de circulation, ce qui fait qu'on n'a plus des couloirs entiers qui restent allumés toute la journée pour personne. Ça s'éteint et puis ça s'allume quand quelqu'un passe. Voilà. Donc tout ça, c'est des travaux qu'on a pu faire grâce à l'investissement de la métropole brestoise, et aussi parce que ce type d'outil, là, le bilan carbone, peut aussi servir non pas à conscientiser les élus ou les techniciens de la métropole brestoise, mais en tout cas à leur donner des chiffres un peu plus précis et des outils qui vont les aider à la prise de décision, en tout cas aller un peu plus vite. Parce que voilà, là c'est assez clair et c'est des outils qui eux n'ont pas forcément le temps de mettre en place parce qu'ils ont énormément d'équipements qu'ils doivent gérer. Donc nous on les a fait, on leur a donné un petit coup de pouce, on va dire, sur cette partie travaux sur le bâtiment, et du coup ça a permis d'aller un tout petit peu plus vite et d'accélérer un petit peu les travaux. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire sinon sur la partie... Alors, sur la partie numérique, nous, on travaille sur la mise en route d'un nouveau site beaucoup plus sobre, beaucoup plus sobre. Donc, on a travaillé, encore une fois, avec des gens qui nous ont aidés à construire, en tout cas, à réfléchir à la manière dont on allait concevoir ce nouveau site. Aussi parce qu'on travaille aussi à l'inclusivité, à l'accessibilité de ce site internet pour tout à chacun. Voilà. Donc c'est le bilan carbone, c'est un outil qui permet de dégager des lignes principales pour un plan d'action. Ça peut être assez décourageant dans le sens où à partir du moment où on sait qu'on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre, ben c'est presque voilà, c'est à quoi ça sert finalement, c'est ce qu'on peut se dire au premier regard, et puis finalement on se dit que d'appliquer un peu la politique des petits pas, c'est-à-dire commencer par modifier un petit peu le catering, travailler avec des brasseurs bretons, sensibiliser les équipes sur toutes ces notions là, puis après travailler sur la mobilité. Alors on n'a peut-être pas de marge de manœuvre, autant de marge de manœuvre qu'on voudrait sur le déplacement des spectateurs, mais par contre sur le déplacement de nos salariés, on peut avoir une petite action. Donc on a mis en place une prime à la mobilité durable en interne. Voilà. Donc c'est le genre de choses qui, au final, petit pas par petit pas, finit par créer en fait un cercle vertueux autour de notre projet. Et puis dernière chose, on parlait de la place de l'artiste sur ces questions-là, sur la question de la sensibilisation à ces enjeux. Nous, on a pris le parti de créer un événement qui s'appelle l'Éco-Festival, qui va avoir lieu au mois de mai. Donc là, je fais un peu mon instant promo. Autour du 13 mai. Donc l'idée est de proposer un temps de diffusion et de sensibilisation de nos publics autour de pratiques artistiques et surtout d'œuvres musicales qui sont conçues en autonomie d'énergie. Donc on va avoir des artistes qui vont venir ici diffuser et travailler sur des systèmes autonomes. Et donc l'idée de tout ça, c'est de sensibiliser le secteur, c'est de sensibiliser nos parties prenantes, c'est de sensibiliser le public. Et pour aller plus loin, on aimerait... donner des moyens à tous les artistes qui seraient intéressés dans les années qui viennent en créant des temps de résidence et des temps d'échange entre techniciens et artistes, Fab Lab, pour essayer de voir comment les artistes peuvent s'emparer de ces questions-là et comment on peut faire du spectacle vivant en toute sobriété énergétique. Donc voilà ce que je pouvais dire moi sur la partie enjeux politiques. Je laisse la parole à mon collègue pour vous parler plus de la partie personnelle, implication des équipes, et puis concrètement, en quoi ça consiste. Voilà.
Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Gaëtan Lanuzel, je suis l'administrateur de la Carène. Donc, on va un peu remonter, on fait le chemin à l'envers, parce que Maëlle vient de vous présenter donc, les conclusions du bilan carbone qui a été réalisé à la Carène. Moi, je vais vous raconter plutôt l'historique de ce bilan, enfin la genèse de ce bilan. Donc, ça commence en début 2021. Gwen Potard, l'ancien directeur de la Carène, est venu nous proposer à moi et Michel Lehire, donc le directeur technique, de suivre une formation, donc une formation à la méthode bilan carbone. C'était une période où on était un petit peu en baisse d'activité liée aux contraintes liées au Covid, en fait, simplement. Donc on avait un peu plus de temps pour se former et pour éventuellement accepter une nouvelle mission qui n'était pas sur notre fiche de poste, on va dire. Donc on a accepté cette mission, Michel Levire et moi. On a suivi une formation qui s'appelle... alors j'ai oublié le nom de la formation, je suis désolé. Initiation à la méthode bilan carbone. Et donc, c'est une formation entièrement en ligne qui dure 22 heures, qui est dispensée par un institut qui s'appelle l'Institut de formation carbone. Donc, c'est un institut certifié. Parce qu'il faut savoir que la méthode bilan carbone, c'est une marque déposée. C'est un outil qui a été créé par l'ADEME, mais c'est une marque déposée. Donc, l'idée derrière ça, c'est de pouvoir d'avoir une méthode un peu unique pour uniformiser en fait, la mesure des émissions de gaz à effet de serre dans les différentes structures. On imagine bien que si on avait 36 méthodes différentes, on aurait des résultats qui ne seraient pas comparables d'une structure à une autre. Donc cet outil du bilan carbone, il se déroule en différentes étapes. Il y a une étape sur la sensibilisation sur le réchauffement climatique et ses conséquences. Une étape sur l'établissement du périmètre de l'analyse. Une étape sur la collecte des informations à prendre en compte. Et ensuite, l'étape un peu plus compliquée, donc l'exploitation des données qui sont collectées et la définition d'un plan d'action en vue de la réduction des émissions. Et ensuite, la mise en pratique de ce plan d'action. Donc, Michel Lehir et moi-même, nous avons suivi cette formation qui durait 22 heures, mais en réalité, qui s'est avérée être vraiment très, très dense, avec des données, des compétences qui n'étaient pas forcément les nôtres. Personnellement, j'ai passé 28 heures sur la formation et j'aurais pu en passer, je pense que j'aurais pu doubler en fait le temps à partir de 22 heures, parce qu'en fait, il y a des tonnes d'exercices qu'on peut refaire. Et quand c'est pas notre métier, on s'est un peu cassé les dents sur la formation. Et à la fin de la formation, bien qu'au départ, l'idée c'était qu'on puisse réaliser le bilan carbone de la Carène entièrement en interne. L'un comme l'autre, on s'est dit qu'on n'allait pas y arriver. En tout cas, on avait une bonne idée de la façon de collecter les données, mais ensuite le traitement de ces données-là, on n'était pas certain d'avoir un résultat fiable et comparable aux autres structures, et etc. Donc on en a parlé à notre directeur et on a fait le choix de travailler avec un cabinet spécialisé, donc Costraten, dont Maëlle vous a parlé. C'était un choix intéressant, ça nous semblait être le choix du judicieux parce qu'ils avaient déjà travaillé avec des structures culturelles. On savait aussi que Cédric Orvouen est membre du conseil d'administration de l'Hydrophone. Donc l'Hydrophone, c'est l'équivalent de la Carène, mais à Lorient, c'est la salle de musique actuelle de Lorient. Donc voilà, on savait qu'il avait cette sensibilité-là pour le secteur, qu'il connaissait notre activité aussi. Et de leur côté, réaliser le bilan carbone de la Carène, ça les intéressait parce que, de mémoire, ils n'avaient encore jamais réalisé un bilan carbone en incluant le troisième scope. Donc, c'est-à-dire le troisième scope, c'est toutes les émissions indirectes, et notamment en ce qui nous concerne, ça concerne le déplacement des visiteurs. Globalement, le troisième scope, c'est 90% des émissions de carbone de la Carène. Et le déplacement des visiteurs, on est à peu près à plus de 50%. Donc on se rend bien compte que ne pas travailler sur ce troisième scope, ça enlève un petit peu de sens à la démarche de faire un bilan carbone, en réalité. Bon, ça peut se nuancer parce qu'effectivement, sur les deux premiers scopes, on a un pouvoir d'action plus facile, alors que sur le troisième, comme ce sont des émissions indirectes, ça peut être plus compliqué d'agir. Mais on voit bien que si l'idée c'est de mesurer les émissions de gaz à effet de serre, c'est beaucoup plus intéressant de le faire en incluant les trois scopes. Donc à partir de ce moment-là, on a commencé à travailler avec Costraten et l'idée ça a été qu'on collecte, on fasse uniquement la collecte en interne. Et tout le traitement des données a été réalisé par Costraten, en fait, parce que c'est leur métier, simplement. Donc Michel Lehir, qui a une vraie expertise sur le bâtiment et sur toutes les données techniques liées à la production des spectacles, s'est consacré vraiment à l'étude des émissions sur ce type de données. Donc ça allait de la consommation énergétique du bâtiment, jusqu'au cycle de vie du matériel qu'on utilise. Également, il a traité la question des déchets. Et de mon côté, moi, je me suis plutôt concentré sur le déplacement, la mobilité domicile-travail de nos salariés permanents, intermittents, techniciens, artistes, intervenants extérieurs, etc. Sur le déplacement des spectateurs et des usagers. Voilà, donc c'était essentiellement du traitement de données administratives. Et également, on s'est appuyé sur un questionnaire sur une enquête pour le déplacement des spectateurs. C'est un des points faibles de notre bilan carbone. C'est un des points faibles parce que on a eu 360 réponses sur un échantillon, sur une fréquentation de 41 000 spectateurs cette année-là. C'est un des points faibles et en même temps pas tant parce que Costratan aurait pu choisir de ne pas utiliser les résultats de cette étude et d'utiliser plutôt des moyennes nationales. Et ils ont estimé que malgré tout, même si l'enquête aurait pu être plus poussée, ça valait le coup d'intégrer ces données pour être au plus réaliste vis-à-vis des déplacements des spectateurs à la carène et pas seulement sur des généralités au niveau national. Une des difficultés de ce bilan, ça a été que on l'a réalisé en 2021, mais en travaillant sur l'année 2019. L'année 2019, tout simplement parce que c'était à ce moment-là la dernière année d'activité, standard avant la crise du Covid. Alors forcément, comme en 2019, on ne savait pas qu'on allait réaliser un bilan carbone en 2021, on n'avait pas collecté toutes les données. Ça veut dire qu'en 2021, on s'est retrouvé à faire un travail d'enquête, à recontacter nos salariés pour savoir à quel moyen de transport ils avaient utilisé 2 ans avant sur telle intervention. Ça a forcément une fiabilité qui est un peu moindre et puis surtout, c'est fastidieux. C'est pour ça que je me suis appuyé. Au final, on a commencé ce travail en binôme et sur la totalité de l'ensemble du bilan, on est près de la moitié de l'équipe à avoir contribué. En fait, moi, je me suis beaucoup appuyé sur mes collègues, hein, que ce soit le service action culturelle, l'équipe des studios, notre équipe production également. Donc, en fait, j'ai essentiellement coordonné la collecte des données plus que je l'ai. Je peux pas vraiment dire que je l'ai réalisé moi-même, en fait. Voilà. Et actuellement, donc, on est dans une nouvelle phase parce qu'on commence le bilan 2023. En tout cas, on commence la collecte des données du bilan pour réaliser le bilan 2023. Avec l'idée de travailler totalement différemment et de s'inspirer de ce qui a été bien fait sur le premier bilan. Mais cette fois, de collecter les données au fil de la saison pour alléger au maximum la charge de travail et de la même façon de répartir la collecte de ces données sur les différents services pour que ce soit le plus léger possible et le plus transparent. Avec dans l'idée, peut-être à terme, certainement pas de réaliser des bilans tous les ans, parce que ça n'aurait pas forcément d'intérêt, mais par contre peut-être d'être capable de mesurer un jour en temps réel, ou chaque saison, nos émissions sur certains types de postes. Par exemple, la question des repas, c'est quelque chose qui est assez simple à faire et à mesurer presque en temps réel au fil de la saison. Et c'est beaucoup moins lourd de le faire en fait chaque semaine, de remplir son petit tableur Excel plutôt que se retrouver à un moment avec une charge de travail à réaliser en très peu de temps sur des données qui concerneraient une année entière. Voilà.
Merci. Est-ce qu'il y a des questions ?
Oui, moi j'ai une question autour de la résistance au changement que vous auriez pu rencontrer en interne. Est-ce que vous en avez rencontré déjà et puis comment vous l'avez géré ?
La résistance au changement, oui, ben, de toute façon, c'est un peu, c'est un peu général. Nous, on a essayé, alors la démarche en responsabilité sociétale, comme je disais au début, on a vraiment essayé d'impliquer toutes les parties prenantes. Et donc la partie prenante, une des parties prenantes les plus importantes dans cette démarche, évidemment, c'est l'équipe. Et on va dire l'équipe élargie, hein, parce qu'il y a l'équipe des permanents, et il y a aussi tous les gens qui travaillent sur les concerts, les équipes de sécu, enfin, les barman, vacataires, les techniciens intermittents ou techniciennes intermittents. Donc ça représente énormément de monde. On a vraiment commencé d'abord par une démarche de sensibilisation de l'équipe. Donc effectivement, tu parlais, Cyril, du Shift Project. Donc on a fait venir Samuel Valenzi, qu'on avait rencontré dans le cadre d'un congrès de notre syndicat national. Et on l'a fait venir à Brest. Et donc, il a fait une présentation des notions de décarbonation, de la culture. Et donc, on a démarré par là. Donc, faire prendre conscience à notre équipe des enjeux qui étaient les nôtres et dans quelle mesure une salle comme la nôtre avait une responsabilité. Et puis petit à petit, on a commencé à parler de responsabilité sociétale, on a commencé à parler de notre démarche. Alors tout ça, c'est 2 ans de travail. Hein. C'est sûr que ça ne s'est pas fait comme ça. Maintenant, on voit que malgré encore certaines réticences dont je parlais tout à l'heure, notamment sur les menus végétariens, globalement, sur le reste, ça commence vraiment à rentrer dans les esprits. La gestion des déchets ici, elle est gérée par tout le monde. La question du circuit court, la question de la sobriété énergétique, tout ça commence à être intégré dans les esprits de chacun et de chacune. Et je pense que ça passe par premièrement une sensibilisation et deuxièmement un cycle de formation. Voilà. On a travaillé parce qu'un des enjeux principaux de notre démarche, c'est la parité, l'égalité et puis la lutte contre les violences sexistes et sexuelles dans le milieu festif. Et donc pour ça, on a, pareil, ça c'est un sujet très clivant dans les équipes, on a travaillé avec une juriste qui s'appelle Laurignas et qui est venue faire 2 jours de formation. Donc formation qu'on a, entre guillemets, imposée à l'équipe, c'est-à-dire que c'était pas au choix, c'était considéré comme une formation obligatoire. On a eu la chance de tomber sur une intervenante formidable qui a vraiment su prendre l'équipe comme elle était, sans jugement, en acceptant toutes les critiques. Et on a fait 2 jours de formation. Et on a vraiment réussi, à partir de ce moment-là, à impliquer l'équipe dans son ensemble et à vraiment avoir une dynamique, une démarche sur ces questions-là qui soit totalement portée par l'ensemble de l'équipe et notamment notre responsable de sécurité, notre responsable du bar, enfin des gens qui sont à des postes clés sur la question des violences et des inégalités, notre programmateur. Voilà. Et donc, on a, par cette phase de sensibilisation et de formation, on a réussi à impliquer nos équipes. Alors, ce n'est pas fini. On a encore des sujets sur lesquels on discute. Alors, on a des réunions d'équipe qui durent des fois très longtemps parce qu'on a besoin chacun a besoin de s'exprimer. Mais ça fait partie du... Nous, avec Gaëtan, on développe une politique de management responsable, c'est-à-dire que on est dans la formation, la sensibilisation, la discussion, et puis petit à petit... impliquer les gens, mais à leur rythme, sans imposer des choses trop violentes ou sans être dans une démarche trop descendante, on va dire, de ce qu'on veut mettre en place. Et juste, je voulais juste préciser, si jamais il y a des questions là-dessus, notre bilan carbone, pour information, ça a coûté environ 6 000 euros à la Carène, qui ont été pris en charge par une subvention ADEME. Voilà.
Une question. C'était assez clair sur le détail. Et puis effectivement, peut-être... Ah, Cyril.
Je me permets une question. Est-ce que vous avez communiqué sur votre bilan carbone auprès de qui? Et je pense notamment au public. Est-ce que, puisque vous le disiez, hein, il y a une difficulté à travailler sur les impacts indirects, le choix de mobilité des publics. Est-ce que vous pouvez en faire de ce bilan carbone un outil de sensibilisation et de communication?
Ouais, alors on l'a fait. Ça fait partie des obligations, hein, dans le cadre de la certification à la norme, là. Donc la norme ISO 2021. On doit communiquer et sensibiliser. Communiquer en interne, ce que je viens d'expliquer, et communiquer aussi en externe. Alors on a commencé à communiquer là-dessus. C'est pas évident de communiquer sur ce genre de sujet quand à côté on va vous présenter le concert de Lorenzo, enfin voilà. Mais on a demandé à notre graphiste, donc Nathalie Billon, avec qui on travaille, de nous faire une petite slide que j'aurais pu vous présenter, d'ailleurs, j'ai pas pensé. En gros, c'est ça, mais en plus imagé, on va dire. Et puis surtout, sur quoi on travaille, quand on travaille sur tel ou tel sujet, pourquoi on travaille dessus. Donc on a aussi publié donc dans nos livrets, vous verrez, il y en a quelques-uns à l'accueil, une interview de Gwen Potard, qui était l'ancien directeur qui a initié cette démarche, pour qu'il nous explique et qu'il explique au public pourquoi on en est là et pourquoi on a initié ça. Donc pour l'instant, on en est là. Dans le cadre de l'éco-festival dont je parlais tout à l'heure, on va aussi faire énormément de sensibilisation. On va créer un fanzine pour expliquer un peu ce que c'est que notre démarche et dans ce cadre, qu'est-ce que c'est qu'un bilan carbone et comment on travaille avec. Et puis, pour finir, on va aussi travailler sur ce nouveau site internet dont je parlais, avoir aussi des espaces là-dessus. Donc ça fait vraiment partie intégrante de la démarche. Et le bilan carbone, c'est en gros ce qui parle le plus simplement et le plus rapidement au public, parce que c'est vraiment des chiffres et puis ça permet de vraiment mettre le doigt sur des réalités, sur des enjeux qui peuvent paraître un petit peu flous quand on en parle